Merci une fois de plus, Seigneur, et de tout cœur pour ce moment merveilleux, glorieux que nous venons d'avoir, Seigneur, reçu en ta présence. Merci pour cette liberté que nous avons de t'exprimer nos sentiments, Seigneur, pour l'assurance que nous avons qu'à chaque fois que nous nous approchons de toi avec confiance, avec foi, eh bien tu nous accueilles parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Sauveur, parce que tu es celui qui nous aime d'un amour à plusieurs dimensions, un amour, Seigneur, qui est au-delà du raisonnable, au-delà de la raison humaine, de toute compréhension. Merci pour cet amour. Une fois de plus, par amour pour nous, tu es là. Et nous pouvons, Seigneur, interagir avec toi. Nous pouvons, ô Dieu, nous attendre à ce que tu fasses, Seigneur, quelque chose de grand dans nos vies. Merci pour tout. Nous voulons maintenant, Seigneur, te donner l'occasion de déposer dans nos cœurs ta parole. Nous voulons ce matin que ta parole, Seigneur, puisse trouver des cœurs bien disposés, que cette parole puisse nourrir véritablement, ô Dieu, notre cœur, que cette parole puisse développer en nous cette capacité d'écoute spirituelle, cette sensibilité spirituelle dont nous avons tant besoin pour discerner ta voix à chaque fois que tu nous parles. Peu importe, Seigneur, le moyen que tu utilises pour nous parler, ce que tu attends de chacun de nous, ce que nous arrivions, Seigneur, à recevoir ta parole, à entendre, Seigneur, les paroles de ta bouche. Car tout ce qui sort de ta bouche, Seigneur, est revêtu de ton autorité et finit toujours, Seigneur, par accomplir l'œuvre pour laquelle ta parole est sortie de ta bouche. Merci pour tout. Bénis ton serviteur, assiste-le, Seigneur, soutiens-le, qu'il puisse transmettre, Seigneur, ta parole depuis ta présence, que cette parole soit revêtue, Seigneur, de ton autorité, et qu'elle puisse ébranler toute fausse conviction dans les cœurs, toute fausse croyance, et que ta parole et ta parole seule soient, Seigneur, le levier de notre vie, soient la base sur laquelle repose tout sur nos vies. Merci pour tout. Merci Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Oui, ça vaut la peine d'acclamer la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons donc continuer avec notre réflexion, avec notre méditation sur les deux termes que la parole de Dieu utilise pour exprimer sa réalité au monde, à son Église. Les deux concepts, les deux mots, les deux termes que la Bible utilise pour exprimer la réalité de la parole. Donc, ça va être le cinquième épisode. Donc, nous avons parlé longuement du Logos et du Réma en introduction, et depuis quelques dimanches, nous sommes en train de voir, si vous voulez, l'application de tout cela, l'illustration de tout cela, dans la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons lire un texte qui nous montre une fois de plus que toute parole qui sort de la bouche du Seigneur, tout réma qui sort de la bouche du Seigneur et qui trouve une écoute spirituelle, une sensibilité spirituelle, qui reçoit cette parole, cette directive personnelle, circonstancielle, eh bien, ce cœur-là va expérimenter ce qu'on appelle la foi véritable. Selon qu'il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et comme je vous avais dit, j'aime beaucoup la version littérale qui dit, la foi vient de l'écoute, et l'écoute par le réma du Christ. Gloire à Dieu. Nous allons lire une histoire qui nous est familière, enfin deux histoires, mais c'est une en particulier qui nous intéresse. L'autre nous permet simplement de planter les décors, de voir un tout petit peu le contexte dans lequel eh bien, l'histoire qui nous intéresse se trouve. Nous sommes donc dans Matthieu chapitre 14 et nous allons lire, faire une longue lecture à partir du verset 13 jusqu'au verset 33. Donc c'est d'abord l'histoire de la première multiplication des pains et puis ensuite l'histoire du Seigneur qui oblige ses disciples entrer dans la barque, et en particulier l'histoire donc de Pierre, qui va recevoir une parole de la part du Seigneur, qui va réagir et qui va expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Matthieu 14, 13 à 33. À cette nouvelle, il s'agit donc de la lapidation, de la mort de Jean-Baptiste. À cette nouvelle, Jésus se retira de là dans une barque, à l'écart dans un lieu désert. La foule l'a pris, quitta les villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, en eut compassion et guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà passée. Renvoie les foules, afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Vous voyez, donnez-leur vous-même à manger. Dieu n'a pas besoin qu'il y ait quoi que ce soit pour que le miracle s'accomplisse. Sa présence rend possible tout. Mais ils lui dirent, voyez, c'est la réaction cartésienne logique, humaine, cérébrale. Ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi ici. Il ordonna, donc le Seigneur ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Tous, absolument tous, mangèrent et furent rassasiés. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Quand Jésus est là, tout est possible. Je voudrais que cette pensée puisse, mes amis, trouver toute sa place dans nos cœurs, que nous revions de cette parole, que nous revions de cette pensée. Quand Jésus est là, tout devient possible. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans les femmes et les enfants. C'était donc une foule plus que nombreuse. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir envoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était seul, là. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades, donc c'était éloigné de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur les eaux. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, dans leur panique, évidemment, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, ne craignez rien. » Pierre lui répondit, « Si c'est toi, « Ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Demande quasi folle, hein? Humainement parlant, rationnellement parlant. Allez, il faut être malade, hein? Mais oui. « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et le Seigneur dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque. Et Pierre marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer ou à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, le Seigneur Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Il est véritablement le Fils de Dieu. Il est véritablement le Messie attendu par l'humanité pendant des siècles et des siècles. Il est véritablement le même hier, aujourd'hui et éternellement. La bonne nouvelle, c'est que ce Jésus-là est présent au milieu de nous. si Pierre n'est plus de ce monde, si tous ceux qui avaient assisté à cette démonstration de puissance inouïe, de puissance extraordinaire, ne sont plus de ce monde, eh bien, celui qui était à la base de cette démonstration de puissance, lui est avec nous ce matin. Lui est parmi nous ce matin. Lui est autour de nous ce matin. Lui est au-dessus de nous ce matin. Alors, acclamons-le en lui disant, Seigneur, tu es véritablement le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, le Logos et le Rhéma. C'est le cinquième dimanche. Aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche du mois de septembre. Cinquième dimanche, mes amis, que nous sommes dans cette réflexion, que nous sommes dans cette méditation. Nous essayons à travers le Nouveau Testament, eh bien, de comprendre la différence entre les deux mots, même si dans certains passages, les deux mots sont interchangeables. Mais in fine, et tenant compte de divers contextes, nous sommes arrivés à la conclusion que le Rhéma, puisqu'il s'agit du Rhéma, nous avons parlé assez longuement du Logos, le Rhéma reste et est cette parole personnelle, cette parole spécifique, cette parole circonstancielle qui nous vient de la part du Seigneur, parole qui nous adresse dans un contexte particulier, dans des circonstances bien particulières. Cette parole, ce Rhéma qui sort de la bouche de Dieu, mes amis, eh bien, est celui qui suscite, qui génère la foi dont nous avons besoin pour pouvoir expérimenter le miracle, pour pouvoir entrer dans le domaine du surnaturel, pour pouvoir déplacer les montagnes quelles qu'elles soient. Car ce n'est ni par la puissance humaine, ce n'est ni par la force de nos croyances que nous pouvons déplacer les montagnes, c'est plutôt par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit agit selon la parole, alléluia. Lorsque cette parole nous est donnée et que nous réagissons positivement, alors là, le Seigneur honore notre foi. Et nous le verrons. Oui, la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, verset 17. Oui, la foi vient de l'écoute, et l'écoute à travers ou par le Rhéma du Christ. Qu'est-ce que c'est une écoute? Premièrement, l'écoute, c'est l'action d'écouter. Voilà. Deuxièmement, l'écoute est un état, est une capacité, mes amis, à être attentif et réceptif à la parole d'autrui. Et en l'occurrence, à la parole du Christ. Être attentif, être sensible et en même temps réceptif. Alléluia. Cet état-là, mes amis, eh bien, permet au Rhéma du Seigneur de susciter en nous la foi. Cette foi qui déplace les montagnes, cette foi qui rend possible ce qui est impossible à nos yeux. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, mes amis, nous sommes appelés à expérimenter la volonté de Dieu dans nos vies. J'aime beaucoup la vie de David, le roi. C'est une vie qui parle encore aujourd'hui. J'en ai longuement parlé à Lubumbashi. Le témoignage que le Nouveau Testament rend à David, c'est que David a servi les desseins de Dieu en son temps. David, mes amis, a tout fait pour que le plan que Dieu avait pour sa vie puisse s'accomplir. Alléluia. Il a fait des efforts, il a accepté le brisement, il a accepté le rejet. Mes amis, son honneur, sa dignité, eh bien, a été traîné dans la boue. Et dans ce brisement, eh bien, cet homme va expérimenter la gloire du Seigneur. Il va vivre pleinement la volonté de Dieu, au point où il restera le seul roi qui aura marqué l'histoire d'Israël. Et encore aujourd'hui, on parle du roi David. Alors que des centaines de rois se sont succédés, mais un seul a dû marquer l'histoire d'Israël. Mes amis, au fer chaud, de manière indélébile. Donc, nous sommes appelés à accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Dieu nous a créés pour que nous accomplissions les œuvres qu'il a préparées d'avance. Car en Jésus-Christ, nous sommes devenus l'ouvrage de Dieu. Le Seigneur n'attend pas que nous arrivions, je le dis et je le répéterai encore, que nous arrivions aujourd'hui que nous arrivions dans ce jour du 5 septembre pour préparer quelque chose. Mes amis, pas du tout. Il a tout prévu. Il savait que dans ces lieux, un jour, un sanctuaire verrait le jour. Alors qu'autrefois, c'était un bar, c'était un hôtel. Alors qu'autrefois, les gens venaient s'amuser ici, d'autres se livraient au péché. Mais lui savait que dans les années qui viendraient, ces lieux lui seraient consacrés. Et aujourd'hui, c'est le cas. Vous pensez que cela a surpris Dieu? Non, pas du tout. Il connaît toutes choses avant que toutes choses deviennent une réalité. Alléluia. Alors, pour accomplir pleinement la volonté de Dieu dans notre vie, nous avons souligné deux plans principaux d'écoute. Deux plans. Il n'y en a pas trois. Deux plans d'écoute pour accomplir la volonté de notre Seigneur. Le premier plan, eh bien, c'est l'écoute par rapport aux directives générales telles que nous le trouvons dans la Bible. Tout est écrit. Sanctifiez-vous comme je suis saint. Eh bien, nous devons rechercher la sainteté, n'est-ce pas? Aimez-vous les uns les autres, c'est écrit. Nous devons nous aimer les uns les autres. En agissant de cette manière, en obéissant à ces directives qui sont mentionnées dans la révélation écrite, eh bien, nous accomplirons la volonté de Dieu. Ça, c'est donc le premier plan d'écoute. Voilà pourquoi nous devons lire la Bible régulièrement. Voilà pourquoi nous devons la méditer. Car il y a des principes, mes amis, spirituels, des natures à nous transformer et à nous rendre conformes à l'image du Christ. Alléluia. Et gloire à Dieu. Ça, c'est donc le premier plan d'écoute. C'est l'écoute par rapport aux directives générales que nous trouvons à travers toute la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Lisez les épîtres de Paul, vous allez voir qu'il y a beaucoup de recommandations, il y a beaucoup d'attentes pratiques par rapport aux disciples du Christ. Aimez-vous les uns les autres, soyez des témoins du Christ, bannissez la méchanceté, craignez Dieu, aimez le Seigneur de tout votre cœur. Ça, c'est écrit. Vous n'avez pas besoin d'une révélation spéciale. Vous voyez quelqu'un, vous dit, Seigneur, révèle-moi, dois-je l'aimer ou pas? Le Seigneur te dira, mais qu'est-ce que j'ai dit dans ma parole? Aime ton prochain comme... Voilà, tout est écrit. C'est ça ce que j'entends par directive générale. Et en obéissant à ces directives générales, nous allons accomplir le plan, la volonté du Seigneur. Ça, c'est le premier plan d'écoute. Le deuxième plan d'écoute, eh bien, concerne les directives spécifiques, les directives personnelles. Pendant que nous marchons avec le Seigneur, en se conformant à la parole écrite, Dieu peut nous donner des injonctions qui nous concernent nous et qui ne concernent pas tout le monde. Dieu peut nous demander d'accomplir des gestes qu'il ne va pas demander à tout le monde. C'est ce que j'entends par directive personnelle, directive spécifique. Il y a des gens à qui Dieu a parlé, tu dois construire ma maison, et qui ont obéi, qui ont vendu leurs biens, leurs affaires, pour pouvoir, eh bien, construire la maison de Dieu. Ils ont obéi, c'était une parole spécifique. C'est ce que j'entends, ou la Bible entend par Réma. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Je peux continuer? Eh bien, nous continuons. Gloire à Dieu. Ces paroles personnelles, c'est ce que nous entendons par Réma. Mes amis, les Réma de Dieu, ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et je vous dirai que entendre la voix de la bouche de Dieu fait partie de notre vocation. Lorsque le Seigneur se révèle à Paul, et que Paul arrive à Damas chez un certain Ananias, Ananias va prier pour lui. Paul va recouvrer la vue. Ananias va lui dire une chose. J'avais fait un séminaire ici du vivant du pasteur quand j'avais parlé de la triple vocation du croyant. Qui s'en souvient? Ah, merci, Papa Timothée. Vous voyez, il y a encore deux. La triple vocation du croyant. La vocation adressée à Paul est une vocation pour tout chrétien. Je reviendrai là-dessus car c'est très important. Qu'est-ce que Ananias a dit à Paul? Le Dieu de nos pères
ta destinée. Un,
entendre la voix de sa bouche. Ce que nous avons traduit dans nos versions, à connaître sa parole. Voyez-vous? Entendre la voix de sa bouche, avoir le juste et à connaître sa volonté. Voilà. Le juste dont il est question à travers tout le livre des Actes, c'est le Seigneur lui-même. Nous devons le voir dans notre vie de tous les jours. Alléluia. C'est la vocation. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Non seulement dans l'au-delà, dans l'éternité, mais déjà maintenant. Car celui qui nous attend dans l'éternité est celui qui agit déjà dans l'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Connaître sa volonté. Voilà ce que Dieu attend de nous. Quelquefois, nous voulons lui imposer notre volonté. Non, mes amis, il a tracé une voie. Et c'est à nous de tout faire pour que nous soyons conduits par son Saint-Esprit, afin que le plan qu'il a prévu pour nous puisse s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Donc, entendre la voix de la bouche du Seigneur fait partie de notre vocation. Et quand la parole sort, pour une situation particulière, quand le réma sort, eh bien nous devons savoir que ce réma est puissant. Il est porteur d'une puissance extraordinaire, porteur d'une puissance terrible qui finit par transformer ce qui nous paraît impossible, ce qui nous paraît contraire à la logique humaine, ce qui nous désarme, lui rend possible, lui le réma du Seigneur. C'est ce que l'ange Gabriel est venu apporter à la jeune Marie, là quelque part à Nazareth en Galilée. L'ange vient et l'ange lui dit, Marie, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, il sera le fils du Très-Haut Tout-Saint. La jeune fille réagit, comment cela se fera-t-il, car je ne connais, c'était normal, elle était fiancée à Joseph, elle attendait la bénédiction pour aller enfin vivre avec l'élu de son cœur. Mais voilà que l'ange lui apporte, mes amis, le réma. Cette parole avait été écrite pendant plusieurs siècles auparavant. Des Juifs de tous les âges ont eu à lire qu'un jour, une jeune fille serait enceinte et mettrait au monde le Messie, celui qu'on appellera Emmanuel. Tout le monde a lu. Et puis un jour, à cette époque-là, cette parole qui faisait partie du logos général est devenue le réma pour Marie. Alléluia. Comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui dit, rien n'est impossible. Ça, c'est notre interprétation. Mais ce que l'ange lui dit, nous l'avons vu la fois dernière, il lui dit ceci, car aucun réma de la part de Dieu ne sera impuissant. Oh, alléluia. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, même si, mes amis, elle est contraire à notre logique, même si elle va à l'encontre de l'opinion majoritaire, même si, humainement parlant, c'est impossible, comment voulez-vous qu'un homme marche sur les eaux? Mais toute parole qui sort de la bouche du Seigneur, mes amis, revêt une autorité, exprime, manifeste une puissance terrible. Aucun réma de la part de Dieu ne sera impuissant. Écoutez comment nous l'avons vu. C'est juste un rappel. Écoutez comment la jeune fille réagit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ton réma. Oh, alléluia. Elle reçoit ça par la foi. Quelques temps plus tard, ce réma est devenu une réalité dans le sein de cette jeune fille qui n'avait jamais connu d'homme. Dieu, mes amis, est capable de tout. Ne le limitons pas. Ne marchons pas par la vue, marchons par la foi. Ayons une oreille, une écoute spirituelle qui nous amène à entendre, mes amis, cette voix de Dieu qui nous parle. Et lorsqu'il nous a parlé, obéissons. Et nous expérimentons des grandes choses. Mes amis, toute parole qui sort de la bouche du Seigneur et qui trouve et qui rencontre un cœur attentif et réceptif, eh bien, cette parole, ce réma, va générer dans ce cœur la foi cette foi qui fait entrer l'homme, le disciple du Christ, dans le surnaturel, dans l'univers des miracles. Les miracles sont encore possibles aujourd'hui, car Jésus a dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Donc il est encore avec nous. Si nous n'expérimentons plus des grands miracles aujourd'hui, ce n'est pas de sa faute. C'est parce que, mes amis, nous ne croyons plus, et nous le verrons à partir de ce texte, ce que c'est la foi suscitée par le Réma. Voyez-vous? Et nous le verrons. Aujourd'hui, les gens s'appuient sur des fausses prophéties. Aujourd'hui, les gens s'appuient sur le texte de la Bible mal interprété. Et ils se disent, voilà, je crois Dieu, pendant un temps je prie, je jeûne, mais il n'y a rien qui se passe. Le jeûne n'est pas une puissance créatrice, pas du tout. Tout en jeûnant, nous restons des humains. Oui ou non? Ce n'est pas parce que tu as jeûné 40 jours ou 100 jours. Car il y en a qui font du fixisme là-dessus. 100 jours. Alors on pense qu'en jeûnant 100 jours, nous deviendrions quelque part des petits dieux capables de créer. Non! Nous restons des humains. C'est celui, il n'y a que lui seul qui peut créer, qui peut susciter des circonstances qui contribuent à notre bonheur. Gloire à Dieu. Oui. Lorsque nous recevons avec confiance le rhéma du Seigneur, celui-ci finit par susciter en nous la foi qui nous permet d'expérimenter la puissance extraordinaire du Seigneur. Gloire à Dieu. Et l'histoire de Pierre est là, mes amis. Et c'est sur cette histoire que j'aimerais que nous puissions nous focaliser. Oui, l'histoire de Simon-Pierre qui sort de la barque, mes amis, et qui marche sur les eaux agitées d'une mer en furie. L'histoire de Simon-Pierre qui sort de la barque en réaction à cette parole que le Seigneur lui a dit, « Viens !» et qui marche, mes amis, sur ces eaux houleuses, est une illustration, une fois de plus, de la puissance du Réma. Alléluia. Une illustration de la foi extraordinaire et triomphante que le Réma du Seigneur suscite dans le cœur de celui qui le reçoit. Soyez attentifs, ne soyez pas distraits, soyez concentrés sur le Seigneur, marchez par le Saint-Esprit et ce dernier développera en vous cette écoute spirituelle qui vous rendra capable de saisir la pensée de Dieu, la pensée pour nos vies, quelle que soit la manière dont cette pensée nous arrive. Je vous avais dit, le Réma peut revêtir différentes formes. Dieu peut nous parler par la nature. Vous voyez? Dieu peut nous parler par les autres. C'est-à-dire, il peut nous communiquer ses rémas par les autres. Il peut nous communiquer ses rémas même par une vision, par un rêve. J'en ai déjà expérimenté. Mais non, cela ne veut pas dire que tout rêve est un réma de Dieu. C'est là que le discernement intervient. C'est là que nous devons connaître la parole de Dieu, la parole écrite. Le réma peut nous venir de manière surnaturelle. C'est Dieu qui choisit. Et ici, pour Marie, c'est par l'ange Gabriel que ce réma est arrivé jusqu'à Marie. Peu importe le moyen que le Seigneur utilise, ce qu'il attend de nous, c'est que nous ayons cette capacité d'écoute, d'être réceptif, attentif à sa parole et de la recevoir. Gloire au Seigneur. Une foi triomphante, une foi extraordinaire. Voilà, mes amis, l'impact, ou du moins le fruit, du réma dans notre cœur lorsque nous le recevons. C'est l'histoire, c'est l'expérience de Pierre à un certain moment de sa vie. Mais avant d'aller à la rencontre de Pierre, dans cette expérience mémorable, extraordinaire, revenons un tout petit peu en arrière pour voir ce que Pierre était autrefois. Ça va nous aider à comprendre, voyez-vous. N'allons pas seulement voir Pierre dans cette expérience, mais essayons un tout petit peu de rencontrer Pierre avant qu'il rencontre le Seigneur. Autrefois, cet homme s'appelait Simon. De l'hébreu, Shimon, Dieu a entendu. Cet homme, Simon, frère d'André, était autrefois, était naguère ou jadis, un simple roseau religieux comme n'importe quel juif. Il essayait autant que faire se peut d'obéir, de respecter, d'observer les traditions de ses pères. Un roseau religieux. Et comme vous le savez tous, un roseau, c'est une plante qui suit toujours le mouvement du vent. Quand le vent vient dans un sens, le roseau va dans ce... il est ballotté. Et il était ainsi, lui Simon, inconstant, ballotté par la tradition juive, par le formalisme d'une religion traditionnaliste et légaliste, lui Simon. Et puis, il y a eu ce jour mémorable où il a rencontré le Seigneur. C'est son frère André qui l'a amené, voyez-vous. Il rencontre Jésus et tout change dans la vie de Pierre, dans la vie de Simon. D'un simple roseau religieux, un homme inconstant, un homme stable, instable, Simon va devenir Kephas ou Cephas en araméen, rocher ou roc, Pierre, alléluia. Cette fois-ci, eh bien, c'est du tout au tout. Autrefois, à cause du judaïsme, de son formalisme, du fanatisme, de l'égalisme et tout ça, il était comme ça. Et puis un jour, il rencontre le Seigneur, il devient le rocher. En rencontrant Jésus, le rocher inébranlable, le rocher des âges, Simon est devenu un rocher, un roc appelé à marcher par la foi, comme tout disciple du Christ. Car il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous ne marchons pas selon les circonstances, par opportunisme, voyez-vous, pas du tout. Nous marchons par la foi. Et la foi n'a rien à voir avec les circonstances, voyez. La foi repose entièrement sur le Seigneur et sur sa parole. Appelé à marcher par la foi. Et dans ce récit, à partir du verset 22 jusqu'au verset 33, eh bien nous voyons que Pierre va donc expérimenter à un moment de sa vie cette vérité de marcher non pas par la vue, mais plutôt par la foi. S'il s'était laissé conduire par la vue, ce qui sera plus tard, il ne serait jamais descendu de la barque comme les autres, n'est-ce pas? Ah oui, il avait des éléments déchaînés autour de lui. La barque dans laquelle il se trouvait était ballottée par toutes sortes de houles. La mer était en furie, la mer était agitée. Comment, dans ce contexte-là, penser même de quitter ou penser à quitter la barque pour marcher sur les eaux? C'est impensable. Mais cet homme a appris qu'avec Christ, il faut marcher par la foi, alléluia, et gloire au Seigneur. Et c'est ce qui va arriver. Nous reviendrons là-dessus un peu plus avec plus de détails. Mais revenons au début de notre lecture. C'est la multiplication de pains. Encore une fois, le Seigneur montre à ses disciples qu'avec lui, tout est possible. Quand lui est là, l'impossible disparaît et laisse la place au possible. Multiplication de pains. Encore une fois, les disciples, avant de se retrouver dans cette barque, eh bien, ont vécu une journée hallucinante, une journée mémorable, ont vécu des moments quasi épiques. Avec 5 pains et 2 poissons, mes amis, Jésus avait nourri 5 000 hommes, plus les femmes et les enfants. C'était donc une foule plus que nombreuse, vous voyez. Mais le Seigneur, quand il est en face d'un problème ou d'une situation, il n'est pas du tout inquiété. Voyez-vous, il sait qu'avec lui, eh ben, il y aura toujours une solution. Donc, avec 5 pains, 2 poissons, qui étaient le repas d'un jeune garçon, le Seigneur va nourrir une foule. Grâce à sa puissance extraordinaire, grâce à sa force toute puissante, le Seigneur va transformer le repas d'un jeune garçon en un pique-nique géant où chacun va manger à sa
promesse possible. Le petit repas d'un petit garçon qui se transforme en un gigantesque pique-nique, où les gens ont mangé, encore mangé, rassasié, pour finalement récupérer le reste. Le Dieu non seulement de l'abondance, mais de la surabondance. Comment peut-on partir d'une situation de 5 pains, 2 poissons à un miracle qui fait que ces 5 pains et 2 poissons se transforment en un pique-nique géant? Eh bien, entre les deux événements, il y a lui, celui qui est assis sur le trône, Jésus de Nazareth. Quand lui est là, eh bien, tout devient possible. Encore une fois, quand lui est là, tout devient possible. Après ce moment merveilleux, on peut voir les disciples s'activer, aller de personne en personne pour leur donner du pain, pour leur donner du poisson et tout ça. Tout le monde est dans cette agitation, il y a de l'enthousiasme. Au point où, mes amis, ce gigantesque pique-nique va susciter un élan de soutien à Jésus qui va donc se transformer en un meeting politique. Jean nous l'a dit. Les gens, après avoir mangé, ils ont dit, ah, le Messie est là. Ils ont commencé à dire, Jésus, le roi. Ils ont voulu le faire roi. En disant Jésus, le roi, et en cherchant, on pouvait lire la suite dans Jean 6, et en voulant faire Jésus, le roi, ils s'attaquaient à Rome. Parce qu'il y avait un seul empereur. Voyez-vous, on ne peut pas avoir 2 crocodiles mâles dans le même marigot. On ne peut pas avoir 2 mâles dans une meute de lions. Oui ou non? Un seul mâle. Alors, en voulant faire Jésus le roi, c'était une manière de s'attaquer à Rome. Mais Jésus ne va pas se laisser distraire par tous ces propos quasi dithyrambiques. Et l'autre, celui le roi, et Toléo, c'est formidable. Non, faisons de lui le roi. Et quand il apprend qu'ils veulent faire de lui le roi, il se retire. Il n'était pas venu pour être roi là, dans cette époque-là, mais plutôt pour donner sa vie pour le salut de l'humanité. Mais il reviendra en lion de la tribu de Judas. Là, il établira son royaume ici-bas, alléluia. Mais ce n'était pas encore la période. Mais enfin, vous comprenez pourquoi la Bible nous dit qu'il obligea ses disciples. Si j'ai le temps, je reviendrai là-dessus. Il obligea. Pas il leur demanda, ne vous laissez pas distraire. Les gens sont en train de manger. Moi, je vous attends ici, allez, venez. Montez dans la barque. Allez, s'il vous plaît. Allez, hop, à la queue le. Montez dans la barque. Et puis allez, précédez-moi, je vous rejoindrai après. Non! La Bible utilise un verbe fort. Il les a. Vous devez quitter ces lieux. Il y a des raisons. Si nous avons le temps, je reviendrai sur ces raisons. C'est là qu'ils se retrouvent dans la barque. Et il leur donne la direction, là. Vous me précéderez et je vous rejoindrai là-bas. Les voilà dans la barque. Au début, tout se déroule normalement. La navigation va bon train, tout se passe bien, et puis avec le temps et le jour déclinant de plus en plus, les choses se sont vite gâtées. La Bible nous dit un vent contraire s'est levé, et ce vent va donc soulever les eaux de la mer. La mer va devenir de plus en plus houleuse, agitée, au point de les empêcher de ramer facilement. Donc la navigation devient difficile. Ils font face aux forces de la nature. Leur barque est malmenée, ballottée par des vagues, mes amis, de plus en plus dangereuses, qui s'abattent contre la coque de leur barque. Vous voyez? Et c'est la panique à bord. Panique à bord. Ils se disent, est-ce que nous arrivons seulement à destination pour rejoindre le Seigneur? Eh bien, il y a un climat, une atmosphère de crainte, de peur, de panique. Tous ceux qui étaient mariés ont sûrement pensé à leurs épouses, à leurs enfants. C'est fini, nous allons mourir ici. Non. Si celui qui a dit, monte dans cette barque, si celui qui a fixé le cap, ne t'en fais pas mon frère, ne t'en fais pas ma sœur. Il t'a déjà précédé, peu importe l'état de la mer, peu importe les dangers auxquels tu es confronté, tant que tu es dans sa volonté, eh bien, il ne t'oubliera jamais. Et puis, à la quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire 3 heures du matin selon le compute romain, la quatrième veille selon le compute romain allait donc de 3 heures du matin à 6 heures du matin. Donc, il faisait noir. À la quatrième veille de la nuit, la Bible nous dit « Jésus alla vers eux en marchant sur les eaux. » Gloire à Dieu. Les dangers qui sont là devant eux, c'est-à-dire la mer agitée, c'est-à-dire les vagues de plus en plus dangereuses, c'est-à-dire de la houle et tout ça, lui va marcher dessus. Formidable. C'est ton Jésus. C'est ton Jésus pour lequel tu es ici ce matin. Il n'a pas changé. Tu as l'impression d'être ballotté. Ta vie est ballottée par les circonstances. Tu es à la recherche de la stabilité. Tu te dis, mais jusqu'à quand? Si tu es dans sa volonté, eh bien continue. Il y a quelque chose de glorieux qui t'attend. Là, encore un peu de patience. Et celui qui t'a dit de monter à bord, qui t'a fixé le cap, viendra à ta rencontre. Et tu verras de quoi il est capable. Et tout le monde saura que ton Jésus est tout puissant. Oh, alléluia. Et puis tout d'un coup, dans cette épaisse obscurité, alors qu'ils étaient en panique, alors c'était la peur, le désespoir à bord de cette barque, les disciples voient une silhouette. Une silhouette qui s'approche de leur barque en se déplaçant sur l'eau. Ils voient, ils regardent quelqu'un ou quelque chose dans cette épaisse obscurité est en train de s'approcher d'eux. Une peur étrange s'est saisie de chacun d'eux. Non seulement la mer est là, de plus en plus dangereuse, mais encore, voilà qu'une silhouette, quelque chose qu'on ne connaît pas, on n'a jamais vu ça, ça bouge, ça se dirige vers nous, en train de marcher sur la terre, sur la mer. Qu'est-ce donc? Oui, une peur étrange, une panique paralysante se saisit de chaque homme à bord. Troublés et maîtrisant difficilement leur panique, ils se mirent à crier, « C'est un fantôme! C'est un fantôme !» Peut-être que certains cherchaient même à se cacher. « C'est un fantôme! C'est un fantôme !» Mais au milieu de ces cris de désespoir, en proie à la panique, au trouble et à la peur, une voix familière, tout d'un coup, eh bien, s'impose au bruit, au mugissement de la mer. Une voix les interpelle, une voix qui leur était familière, et cette voix leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Littéralement, comme vous le savez, écoutez ce qu'il dit. Courage, ou prenez courage. Ego eimi, moi je suis. Oh là là, gloire à Dieu. Le grand je suis arrive. Il ne dit pas c'est moi. Mais regardez bien, ouvrez bien vos yeux, c'est bien moi. Non. Moi je suis. Alléluia. Le grand je suis était là à l'œuvre. Quand il apparaît, tout se soumet à lui. Rien ne peut aller à son encontre. Rien ne peut se manifester. Le grand je suis se dirige tout doucement, avec assurance, vers ses disciples en panique, ses disciples en désespoir. Oui, c'est Jésus. C'est la voix du Seigneur de gloire, le Fils du Dieu vivant. Mais il est en train de marcher sur les eaux. Comment est-ce possible? Sur les eaux. Alors, quand Pierre entend et tout le monde entend cette voix, Et il voit le Seigneur Jésus marcher sur les eaux. Pierre demande aux autres rameurs d'arrêter de ramer. Alors, tout le monde arrête. Pierre, encore Pierre, autrefois Simon, roseau, mais il est devenu roc. Il dit, Seigneur, alors que tous les autres ont le couple soufflé, ils sont bouche bée, comme on dit, pas un n'ose prendre un mot, sauf Pierre, encore lui. Seigneur, si c'est toi, si c'est bien toi le grand je suis, ordonne-moi de marcher sur les eaux pour venir vers toi. Que fait Jésus? Que fait Jésus? Il lui donne sa parole. La foi vient de ce qui sort de la bouche du Seigneur, du réma. Il dit, Pierre, viens, oh, alléluia. Cette parole a été adressée à une personne. Ils étaient nombreux, tous les apôtres, tous les disciples du Christ, tous croyant en Jésus, tous sachant qu'il était le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, cette parole circonstancielle, cette parole spécifique a été adressée à Pierre. Et le Seigneur lui répond, viens. Les autres disciples sont interloqués. Ils ont tous le regard tourné vers Pierre et surpris par sa requête. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il demande? On peut s'imaginer Jean qui regarde Jacques, ou même André dit, mais ton frère, il fait quoi? Il fait quoi? Est-ce que j'ai bien entendu? Il a demandé d'aller... Oui, oui, moi aussi je viens d'entendre. Comment est-ce possible? C'est pas possible. Eh bien, Pierre réagit, et nous terminerons par là. Pierre reçoit le rhème. Ce rhème suscite la foi. Cette foi l'amène à quitter la barque. Pierre s'assied sur le bord de la barque. Pierre passe les jambes de l'autre côté. Pierre tient le bord de la barque. Pierre fait descendre ses jambes tout doucement. Pierre pose ses pieds sur ce qui aurait dû l'engloutir. Mais là, mes amis, alors qu'aux yeux des autres, c'est une mer agitée, pour Pierre, il y a un miracle qui se passe. Ça devient ferme. Pierre se met debout. Pierre regarde à gauche, à droite. Il dit, c'est bien moi, Simon. Oui, c'est bien toi. C'est bien toi. Le Seigneur dit, viens. Pierre fait quelques pas. Eh bien, il y a un concert d'exclamations dans le bateau. Comment est-ce possible? De mémoire de Juifs, on n'a jamais vu, ni entendu dire, ni vu, ni entendu dire que quelqu'un ait marché sur les eaux. Mais ici, nous assistons à quelque chose de surréaliste. Eh oui, dans ce récit, mes amis, nous passons d'un niveau de surréalisme à un autre niveau. Avec 5 pains, 2 poissons, le Seigneur transforme le repas d'un garçon en un pique-nique gigantesque. C'est surréaliste, oui ou non? Et puis Jésus qui vient marchant sur les eaux, c'est du surréalisme. Et puis Pierre qui obéit, qui s'assied sur le réma que le Seigneur lui a donné, qui lui aussi marche sur les eaux de la mer agitée. Oui, on va de surréalisme en surréalisme. C'est quelque chose qui défie l'intelligence humaine, la logique humaine, la puissance cérébrale. Mes amis, tout rhème de la part de Dieu ne sera pas impuissant, finira par susciter en nous la foi qui va nous amener dans le miracle. Pierre s'est mis debout, les eaux agitées sont devenues comme le tarmac d'une autoroute. Alléluia! Il pouvait chanter, il pouvait louer, alors que pour les autres, ce n'est que de l'eau. Mais pour Pierre, grâce à la puissance de la parole du Christ, eh bien, c'est devenu une autoroute. Alléluia! Il y a de quoi acclamer notre Jésus. Il y a de quoi se mettre debout pour le louer, pour l'adorer. Alléluia! Tout est possible. Tout est possible à celui qui a la foi. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons louer le Dieu de gloire. Et nous allons lui demander de pouvoir nous parler, nous donner cette parole réma qui sort de sa bouche. Comme Esaïe l'a dit, lorsque la parole sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle est sortie. Oui, toute le rhéma sort de la bouche du Seigneur. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions le saisir. Alors ce rhéma suscitera la foi, cette foi qui nous fera entrer dans l'univers de miracles. Car la foi vient de l'écoute, et l'écoute par le rhéma du Christ. Louons le Seigneur, adorons-le, et demandons à ce qui nous parle, qui dépose dans nos cœurs un rhéma, si nous sommes dans un besoin, et que nous voulons qu'il suscite en nous cette foi qui va nous pousser à aller et ouvrir les portes qui sont restées bloquées jusque-là, dans le nom de Jésus-Christ. Louons-le, prions tous ensemble, alléluia. Oh, alléluia.
Que tu coulerais, il n'a pas dit.
Oh, alléluia. Prions tous ensemble, mes amis. Le Jésus qui a visité Pierre, le Jésus qui lui a donné cette parole, est le même ce matin, est le même parmi nous. Alors ouvrons-lui à lui. Dis, Seigneur, parle-moi. Dépose dans mon cœur ce rhéma dont j'ai besoin par rapport aux défis qui sont là devant moi, par rapport aux problèmes qui sont là devant moi. Seigneur, me voici. Parle. Parle. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Oh, Seigneur de gloire. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Nous voulons garder un moment de silence. Tu es peut-être dans une barque qui est ballottée par toutes sortes de problèmes. Oui, ta vie ressemble à une barque. Et depuis quelque temps, ou même plusieurs temps, cette barque est ballottée par toutes sortes de problèmes, par des circonstances qui te sont de plus en plus hostiles. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Tu te dis, mais comment expérimenter ce miracle? Oui, le Seigneur voudrait que tu marches, que tu expérimentes les miracles. Alors ce matin, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Il veut déposer sur toi un verset de la parole de Dieu qui va devenir un rhéma pour toi. Reçois-le maintenant. Et que ce rhéma suscite la foi dont tu as besoin pour pouvoir expérimenter la puissance du Christ, pour pouvoir recevoir des solutions miraculeuses. Dans le nom de Jésus-Christ, que cette parole trouve un cœur disposé, que cette parole atterrisse dans ton cœur. Oui, il y a ce verset qui est en train de traverser ton esprit. Il y a ce verset qui cherche à s'imposer à toi. Ne te laisse pas distraire. Laisse ce verset de la parole atterrir dans ton cœur. Et puis le Saint-Esprit, à partir de ce verset de la parole, suscitera la foi, le rhéma qui te conduira à la victoire. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de ce que tu ne parles jamais en vain. Nous voulons être des hommes et des femmes, Seigneur, sensibles à ta voix. Des hommes et des femmes qui ont cette capacité, Seigneur, de lire ta pensée au travers des circonstances qui nous environnent. D'avoir une écoute spirituelle, Seigneur, qui nous permette de saisir ta parole et de voir cette parole susciter en nous, générer en nous la véritable foi triomphante. La foi qui nous fait entrer de plein pied dans l'univers du surnaturel. Oh, alléluia. Jésus. Jésus. Oui, que cela devienne une réalité pour chacun de nous. Merci. Éloigne de nous toute distraction. Que tout au long de la journée, que nous restions attentifs. Car tu peux déposer cette pensée en nous à un moment comme à un autre. Même après ce culte. Oui, moi je vais m'arrêter, Seigneur. Mais ton esprit ne s'arrête pas. Je prie pour que cette parole continue à embraser le cœur
dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour tout.